Boulevard.
Boulevard Against le matin.
102.1.
Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Je pense pas que je suis seule dans ma gang, mais chaque fois qu'on parle du mois de mai, des pissenlits, des abeilles, des... Je comprends pas grand-chose à comment ça fonctionne, le pourquoi du pourquoi. Je vois pas le changement dans mon quotidien nécessairement. En toute franchise, là, je comprends le principe, mais... Je pense qu'on n'en sait pas assez sur les apiculteurs, apicultrices aussi, sur les ruches, sur comment fonctionnent les abeilles. Puis on va en parler ce matin parce que vous avez certainement vu ça passer dans les nouvelles. Il y a l'apicultrice Maggie Lamotte-Boudreau chez Rayon de Miel qui a été victime d'un vol de plusieurs ruches, 4 si je ne me trompe pas, dans la MRC des Appalaches. Il paraît que ce ne serait pas la première fois. On dirait que je m'explique mal. Qui vole des ruches, pourquoi puis comment? On a bien des questions à lui poser ce matin. Maggie Lamotte-Boudreau, aussi vice-présidente des apiculteurs apicultrices du Québec. Bon matin.
Bon matin.
Comme je dis, je m'explique quand même mal tout ça. J'espère qu'on va pouvoir démystifier le tout ensemble ce matin. De ce que je comprends, tu n'es pas la première à qui ça arrive, ce genre de vol-là. Hein?
Non, je suis pas la première. C'est une problématique chronique en apiculture. On a à chaque année plusieurs apiculteurs québécois là, qui se font voler des quantités variables de ruches. Ça peut varier de, comme dans mon cas, 4, puis ça peut aller jusqu'à 200 ruches, comme on avait vu il y a quelques années là, à Victoriaville. Là. Mm. C'est très pernicieux, si je peux me permettre le terme.
Là. Pour ceux qui connaissent pas grand-chose là-dedans, puis c'est farfelu comme question, là, moi, je m'approcherais pas d'une ruche avec un bâton. Là. Fait que, comment des ruches peuvent être volées?
C'est, en général, quelqu'un qui a un minimum de connaissances. Dans mon cas, il y avait même bouché les entrées des ruches. Ils ont brisé une partie de mon matériel là, dans le rucher. Il y avait vissé du bois, des planches sur les ruches. Mais ils ont parti avec seulement une partie de leur supposé butin. Donc, ils ont laissé une partie des ruches sur place. Soit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé un peu sur l'entrefait, qui se sont sauvés rapidement, ou moi, j'ai l'impression là qu'ils se sont sérieusement fait piquer parce que quand on n'a pas la connaissance suffisante des ruches, bien, on risque là, fort d'avoir beaucoup de piqûres. Là.
Bien, justement, là, bon, t'as dit que c'était quelqu'un qui devait avoir un minimum de connaissances, mais en même temps, qui n'en a pas énormément, qui pourrait voler des ruches? Puis qu'est-ce que cette personne-là ou ces personnes-là auraient à gagner à faire ça?
Bien, en fait, j'ai comme l'impression que c'est des gens qui voulaient se lancer dans l'aventure de l'apiculture. Puis au lieu d'y aller comme tout le monde, puis de faire l'achat de matériel, de suivre des cours, d'acheter les abeilles, bien, ils ont décidé de passer par la voie facile ou peut-être difficile, en tout cas, on peut le voir de deux angles, là, mais ils ont décidé de voler des ruches pour pas avoir à défrayer et probablement, j'imagine, les ramener à la maison sur leur pelouse en arrière ou dans un champ tout près d'où ils habitent. Là.
Okay. J'ai envie de te demander, Maya, savoir comment... Ben en fait, quel effet ça a sur les abeilles? Parce que je lisais que, pour toi, c'est un peu comme se faire voler un chien ou un chat. Là. Je veux dire, je vais dire une relation. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu travailles tellement fort sur, justement, ton entreprise, les ruches avec les abeilles. Quel effet ça a sur les abeilles, ce genre de vol-là? Parce que j'imagine que ça doit déranger, là.
C'est clair que ça les dérange. Je veux dire, ils se ramassent dans un nouvel environnement qu'ils n'ont jamais vu avant. Ils vont être obligés de faire des vols de propreté. Ils vont faire des vols d'orientation. Là, le transport, si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, comment ils ont transporté les ruches? Ça peut avoir eu des effets délétères sur les abeilles. Ça peut avoir sur la reine. Tu sais, il y a des précautions à prendre quand on transporte des ruches. Puis là, en plus, moi, les ruches qui sont restées dans mon rucher, il y avait la porte bouchée, là. Je suis absolument chanceuse qu'elles ont pas cuit les abeilles dans la ruche, là. Quand on est arrivé sur le site, on s'est dépêché d'ouvrir la porte. Parce que là, elles avaient même plus accès à l'extérieur, elles avaient plus accès à de l'air, là.
Oh mon Dieu. Puis qu'est-ce que ça représente comme dommage pour les gens qui connaissent rien à ça? C'est 4 ans, si je me trompe pas, ruches qui ont été volées?
Oui, c'est 4 ruches. Je vous dirais qu'en général, une ruche, ça vaut facilement 500 $ en matériel et en abeilles. à un moment précis. Par contre, là, on compte pas ce que j'aurais pu produire dans le futur avec ces ruches-là. C'est des ruches qui auraient pu devenir, parce que moi, j'ai un programme de sélection à la ferme, parce que je travaille de très près là avec l'Université Laval et le Centre de recherche de Deschambault. C'est des ruches qui auraient très bien pu devenir des mères, qu'on appelle, et donc qui auraient pu produire des milliers de filles là, pour justement aider les autres apiculteurs que je fournis partout au Canada à créer des nouvelles ruches. Et d'ailleurs, la sélection, c'est pour limiter l'immortalité qu'on a en apiculture, là.
Dans la publication Facebook que vous avez fait, entre autres, vous dites que les ruches, c'est comme votre seule source de revenus à la ferme. Comment ça fonctionne, tout ça? J'imagine que c'est pas nécessairement à l'année, là.
On a à peu près l'été, là, c'est ce que j'expliquais à mes employés, on a à peu près 45 jours dans l'année pour faire notre revenu. Là, ça, c'est à peu près juin et juillet, principalement. Il y a un petit peu le début d'août, puis il y a possiblement un petit peu la fin mai, mais... Puis là-dedans, là, dans ces deux mois-là, on a peut-être une soixantaine de jours, mais il faut enlever les journées de vacances, les journées de pluie, tu sais, tous les congés, les erreurs ou les accidents qui peuvent arriver au travers de tout ça, parce qu'il arrive toujours quelque chose. C'est qu'il nous reste peut-être à la limite 45 jours pour faire notre revenu annuel. Fait que là, de perdre des ruches au travers de tout ça, c'est comme une couche de trop, là. On se débat déjà en tant qu'apiculteur contre la météo, contre les maladies, contre le varroa, on a des mortalités annuelles qui dépassent tout l'entendement. Puis là, on se rajoute l'humain qui vient mettre son petit grain de sel. C'est terrible. Là.
J'imagine que la meilleure solution, c'est de retrouver les ruches. Si jamais on les retrouve pas, c'est quoi le plan d'action? On repart de nouvelles ruches? Les abeilles existantes vont compenser?
Oui, j'aurai pas le choix. Là. Je vais être obligée de repartir des nouvelles ruches si on les retrouve pas. L'idéal, c'est sûr que de les retrouver, là, ça ferait mon bonheur absolu. Là. C'est des abeilles, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est mes filles, c'est mes animaux. C'est exactement comme si je me ferais voler mon chien. Là. J'y tiens à mes animaux. Là.
Justement, par rapport à ça, tant qu'à t'avoir au bout du fil, de quelle façon on peut peut-être rester alerte pour aider à retrouver les ruches? Tu sais, je voyais dans la publication, je pense qu'il y a des codes dessus, comme on va le savoir si c'est ça, sauf si ça a été effacé ou je sais pas, là, mais il y a quand même des façons de rester alerte là, en tant que citoyen?
Oui, mais si quelqu'un vous annonce tout d'un coup que en fin de semaine, il y a des nouvelles ruches chez lui, puis que vous arrivez sur le terrain, c'est des ruches multicolores, c'est un toit qui appelle américain, avec très coloré. Vous pouvez vous poser des questions. L'idéal, c'est probablement peut-être de prendre une photo discrètement puis de me la faire parvenir pour que je puisse identifier la ruche. Là. Moi, j'ai des couleurs particulières. Puis le code apitraceur, c'est un trou que j'ai fait dans la boîte. Là. Fait qu'on peut pas effacer un trou. Là.
Maggie, on dirait que je vais être vraiment transparente avec toi. Moi, je n'y connais vraiment rien, puis je me dis, je suis sûrement pas toute seule. Est-ce que, tu parles, t'as 45 jours, bon, pour faire le revenu annuel. Est-ce que t'as des ruches juste pour faire du miel? C'est quoi exactement le processus, la business derrière ça?
En gros, moi, ma compagnie est spécialisée en production de reine abeille. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je produis les reines abeilles. Pour produire une reine abeille, ça prend 24 jours. Le 24 jours est dédié aux soins de cette reine-là. Donc, on va greffer la petite larve. On va la donner à une ruche que moi, je prépare spécifiquement pour prendre soin de cette petite larve-là puis l'élever en œuf de reine, qu'on appelle en fait une cellule royale. Quand cet œuf-là est sur le point d'éclore, mais je vais ramasser l'œuf puis je vais le donner à une ruchette de fécondation. Puis le seul travail que je vais donner aux abeilles dans cette ruchette de fécondation-là, ça va être de faire accoupler la reine en question. Puis là, au 24e jour, je vais passer, je vais regarder si la reine, elle a bien été fécondée, elle pond des œufs. Puis là, je la récolte, je la mets dans une toute petite cagette. Puis là, je la fournis à mes collègues pour qu'eux puissent sauver leurs ruches qui ont perdu leur reine ou pour qu'ils puissent refaire des nouveaux bébés ruches, en fait, des nucléis, pour être capable de compenser leur mortalité hivernale, dans le fond. Là.
Fait que tu crées...
Ça, c'est le cœur de ma compagnie. Okay. J'ai d'autres ruches au champ. Eux vont être vraiment dédiés à la production de miel, mais ils font partie là, de la sélection génétique de l'entreprise, parce que ces ruches-là, on les suit au cours de l'année et même de deux années consécutives pour sortir les championnes là, en production de miel, qui n'ont pas de maladie, qui survivent à nos hivers, pour justement produire des reines de haute qualité. Là.
J'aurais jamais pensé que tu créais les reines dans ma tête. C'était comme, ils choisissaient ça entre eux autres. Là. Tu ne gérais pas ça, là.
Non, non, c'est vraiment nous, là, on sélectionne. On est même rendu maintenant à la ferme, là, on peut faire maintenant de l'insémination artificielle, comme oui, chez la vache ou le cochon.
Est-ce qu'il y en a beaucoup des entreprises comme la tienne à travers le Québec ou c'est quand même assez niché, vraiment, tu sais, pour le miel, je pense qu'il y en a quand même une couple, mais pour cette, entre guillemets, fabrication de reines-là?
On est très niché. Actuellement, à ma connaissance, on est le deuxième plus gros producteur de reines au Québec. Le plus gros producteur, c'est Anicette Desrochers, donc Ferme Haute-Laurentide. Après ça, il y a quelques autres plus petits producteurs. Là. On est peut-être 5 à 6 là, au Québec à faire des reines. Là.
Au niveau de l'apiculture en général, est-ce que le marché est quand même en bonne santé dans la province? Si je fais un lien, mettons, avec l'agriculture où les dernières années ont été difficiles, tu disais tantôt à quel point vous étiez à la merci de toutes sortes de situations, dont la météo. Dans les dernières années, puis cette année, ça ressemble à quoi le marché au niveau de l'apiculture au Québec?
Ben, la production de miel est intéressante. On a eu, par contre, quand même un taux élevé de mortalité. On a 40 % du cheptel apicole québécois qui est mort cet hiver. Donc là, les apiculteurs travaillent très fort pour remonter leur cheptel, encore une fois. Puis là, malheureusement, on est soumis là, aux prix mondiaux du miel. Donc, j'ai ma grande crainte, c'est que cet automne, nos prix là à la livre pour le miel soient complètement à terre. Il y a 2 ans, on vendait notre miel à peu près à 3,10 la livre en vrac, donc en baril. Mm-hmm. Là, ma crainte, c'est que ça soit en bas du 1$, là. En bas du 2$, peut-être 1,50, 1,90. On est pris avec le miel frauduleux, en fait. Il est là le problème.
Quand on dit miel frauduleux, c'est qu'est-ce qu'on veut dire exactement?
C'est du miel qui a été frelaté, donc ils ont rajouté du sucre blanc à l'intérieur. Puis là, ils vendent comme si c'était du miel, sauf que c'est pas le cas. Là.
C'est fréquent, ça, ou...?
C'est assez fréquent, oui. Il y a des pays qui ont été bannis, d'ailleurs, de l'importation au Canada, dont la Chine, parce que c'était pratiquement que ça qui entrait, là, du miel frelaté.
Fait que la meilleure façon, c'est d'acheter local, finalement?
Oui, d'un apiculteur que vous connaissez, dont vous connaissez la source du miel. Cherchez, goûtez aussi. Un miel naturel va vraiment avoir des belles saveurs, là, tandis qu'un miel frelaté va peut-être plus goûter le caramel ou le miel brûlé ou des choses comme ça. Là. Ça sera pas des belles notes florales comme on pourrait retrouver dans un miel. Là,
Rayon de miel, c'est ton entreprise. Maggie, je te souhaite de retrouver ces ruches-là. Je te souhaite, bon, je sais que ce sera pas le cas, mais que ça affecte pas trop quand même le chiffre au bout de l'année. Je sais qu'il y a une partie émotive là-dedans aussi pour toi. Merci d'avoir pris le temps ce matin. J'ai comme l'impression que tu nous as un peu éduqué, mine de rien,
ouais,
sur comment ça fonctionnait. C'est ça, monsieur, madame, tout le monde, quand on n'est pas dans ce milieu-là, on n'a pas nécessairement le même attachement, on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Fait que ça a été le fun de voir qu'il y a réellement un impact, finalement.
Oui, oui, merci beaucoup. Puis je passe le mot pour tous les apiculteurs du Québec. Là, ouais.
Je te souhaite une super belle journée. Maggie Lamotte-Boudreau, c'est elle que vous venez d'entendre. Elle est vice-présidente des apiculteurs, apicultrices du Québec, apicultrice elle-même chez Rayon de miel, son entreprise. Puis on en parlait parce qu'elle a été victime d'un vol de plusieurs ruches, 4 ruches pour être exact, dans la RMRC des Appalaches. Puis on voit que ça a un effet pas pire sur sa production. Là. Ouais. Écoute, sincèrement, en toute franchise, quand j'ai lu dans le journal que pour elle, c'était comme se faire voler son chien ou son chat, il y avait quelque chose pour moi de lui parler parce que j'ai eu une incompréhension directe, puis je me suis dit, je suis clairement pas la seule à pas comprendre cet attachement-là.
C'est le travail que tu mets.
Oui.
Puis à la fin, on parlait de la qualité du miel. Là. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Rotten. C'est pourri en français. Là. C'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai écouté ça il y a quelques années. Ça date quand même. C'est sur une série d'à peu près 9 épisodes où est-ce qu'on va couvrir un aliment. On va parler, mettons, de l'ail, puis on parle du miel dans ce documentaire-là.
Ah, c'est vraiment intéressant, ça.
Non, mais depuis que j'ai écouté ça, honnêtement, là, je n'ai jamais réacheté du miel en provenance d'une grande surface.
Ah, ouais.
Si ce n'est pas, mettons, un pot, et que je le sais que c'est le miel d'Émilie, le miel de whatever. Que tu sais que c'est clairement du miel fait au Québec, là, ça paraît vraiment. Là, généralement, c'est des beaux petits bocaux. Puis dites-vous une chose, un pot de miel devrait vous coûter 8-9 $. Si ça vous coûte 7 $ pour 2 cruches, là, C'est louche. Et honnêtement, prenez la peine de l'écouter si vous avez envie de bien consommer les aliments. C'est vraiment intéressant. Puis encouragez-les, les apiculteurs locaux. Moi, ça vaut vraiment la peine de le faire.
Le bout sur les reines. T'sais, moi, pour moi, l'entreprise d'abeilles, pour moi, c'était automatiquement, tu fais du miel. Puis tu penses pas à ça. L'élevage de reines que tu vas envoyer ailleurs pour remplacer des reines qui sont mortes.
Mais le fait que tu crées la reine aussi. Moi, dans ma tête, c'était vraiment... C'est super niaiseux. Je pensais aux meutes de loups. Dans ma tête, je veux dire, la plus forte des abeilles là, qui t'offrent
les abeilles, on le sait qu'ils sont en voie d'extinction. Là. Il y en a de moins en moins. On a un défi avec les abeilles. Fait que j'imagine qu'on a avancé la science pour être sûr de sauver les abeilles. Encouragez vos apiculteurs et ne volez pas les ruches. Voyons donc.
Le pire, c'est que maintenant, ils s'installent un peu partout. Nous autres, sur le toit de l'édifice, ici, il y a des ruches. Ils donnent des fois des petits pots de miel pour te rappeler qu'ils sont là, ils font leur travail. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous voulez réentendre cette entrevue-là, blvd.fm, elle sera sortie. On parlait en fait avec Maggie Lamotte-Boudreau pour le rappeler, qui est vice-présidente des apiculteurs et apicultrices du Québec. On revient dans quelques instants. On parle au retour de la pause de no-show. C'est un terme... Écoute, il n'y a pas de terme français. Réservation fantôme.
Oui, c'est ça l'expression qu'on utilise. Ouais.
Réservation fantôme, les no-show dans les restaurants. Fait que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais le principe tout simplement de réserver peut-être à plusieurs endroits quand tu vas aller manger avec tes chums de filles ou de gars le vendredi soir, de choisir un endroit dernière minute, puis tant pis pour les deux autres restaurants, les impacts que ça a au niveau monétaire d'un resto, les lois qu'on aimerait changer aussi au niveau de la protection du consommateur, à savoir est-ce qu'on peut prendre un dépôt, est-ce qu'on peut le garder, c'est-tu légal, pas légal, il y en a des questions. Fait qu'on va rejoindre Jonathan Ola, qui est copropriétaire de l'atelier, mais aussi président d'Action Promotion Grande Allée, dans quelques instants, juste au retour de la pause. Vous êtes dans Boulevard Against le matin, Audrey, Max, Sam, on est ensemble jusqu'à 10h.
Jusqu'à 10h.